Le Mag Éco, en partenariat avec le Journal des entreprises.
Bonjour à tous, une fois de plus merci d'être au rendez-vous de ce magazine Éco chaque mercredi, une émission co-animée avec Olivier Amard du Journal des entreprises. Bonjour Olivier.
Bonjour Bastien.
Ça va ?
Ça va très bien.
On démarre comme à l'accoutumée avec votre invité de la semaine. Nous accueillons aujourd'hui Marion Simon, qui est cofondatrice d'Openland Anjou.
Oui, cofondatrice et dirigeante d'Openland Anjou, une structure née à Nantes qui se développe dans plusieurs départements et qui s'est installée en Angers en 2021. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la transition environnementale. Bonjour Marion Simon.
Bonjour.
Alors, comment c'est né Openland et pourquoi ?
Alors, c'est né en effet en 2018 à Nantes par trois personnes, Walter Bouvet, Pascal Guiffant et Marine Laurent, et avec cette volonté de d'essaimer le projet dans les territoires. Et nous, on avait déjà des liens parce qu'on est en effet géographiquement assez proches. Et cette envie avec plusieurs entrepreneurs locaux du territoire du Maine-et-Loire de porter ce projet qui a une ambition assez forte de réparer la terre, c'est notre raison d'être. Et donc cette envie de rassembler, de fédérer des indépendants, des entrepreneurs qui faisaient cette volonté de transformer les entreprises et les territoires sur les sujets de la transition.
Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises et aux collectivités pour réparer la terre ?
On propose un parcours de transformation en 6 jalons. Et qu'on prend en fonction de la maturité de l'organisation, en fonction d'où elle en est sur ces sujets-là. Ça commence bien évidemment par comprendre les enjeux, la sensibilisation et la mobilisation des équipes. C'est encore beaucoup ce qu'on fait encore aujourd'hui, ça représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Et ensuite, on a un parcours qui prend la forme du U, donc la courbe du changement, tout simplement, parce que sur ces sujets-là, il y a plusieurs étapes à intégrer dans les équipes et chez les CODIR. Donc quand on sait, on a compris les enjeux, l'idée c'est de mesurer ses impacts, de savoir d'où on part, donc cartographier ses impacts, cartographier sa chaîne de valeur. Ça passe par exemple par un bilan carbone, tout simplement. Et puis ensuite, quand ça c'est fait, on se re-questionne. On peut re-questionner justement sa raison d'être, sa mission, ce que le dirigeant, la dirigeante, elle a envie en termes de vision. Donc par exemple, on peut projeter les entreprises en 2040. Qu'est-ce qui va se passer en 2040 et vers quoi on a envie d'aller ? Et puis ensuite, on définit sa stratégie, son plan d'action, sa feuille de route, avec en tout cas nous une ambition qui est celle de la régénération, ce cap un peu fort et ambitieux.
Est-ce qu'elles ont envie de réparer la terre, les entreprises et les collectivités ? Et puis si oui, est-ce que on doit avoir qui doit avoir envie dans une entreprise ? Est-ce que c'est le dirigeant, les salariés ?
Alors je vais répondre à la dernière question, c'est ça peut partir de tout le monde. Honnêtement, nous, on voit aujourd'hui que ça peut être vraiment le dirigeant, la dirigeante qui a fait un switch dans sa tête, qui a compris les enjeux, etc. Ça peut être les CODIR. À l'intérieur des CODIR, on a des directions RH, marketing, RSE qui se mettent de plus en plus en place. Et c'est aussi parfois, ça émane beaucoup des collaborateurs qui sont en quête de sens et qui ont envie de transformer leur boîte. La première question, c'est est-ce qu'ils ont envie, oui, de plus en plus. Alors, soit par leur propre volonté, comme on le disait, qui ont compris les enjeux et qui, ou qui ont subi des crises et qui se sont rendu compte, en termes de ressources, je suis très dépendante de cette ressource-là. En fait, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me transforme. Ça peut être aussi parce que il y a le balai réglementaire qui pousse, et puis ça peut être aussi parce que en termes d'employabilité, en termes de concurrence, ça bouge aussi. Donc, si on n'y va pas maintenant. On commence à être à la traîne sur ces sujets-là.
Elles peuvent y être contraintes, vous dites, par un balai réglementaire. Ça peut être aussi des clients, ça peut être aussi des sous-traitants qui exigent aussi d'une entreprise qu'elle soit plus vertueuse.
Exactement. Par exemple, une entreprise qui va faire son bilan carbone, elle va aller chercher des données de chez ses fournisseurs. Plus sa chaîne de valeur, donc plus en amont de sa chaîne de valeur, elle a des partenaires, des fournisseurs, plus elle va se rendre compte justement que c'est assez compliqué d'aller chercher des données. Donc elle va pousser l'ensemble de son écosystème à savoir telle ressource, tels intrants, tels achats, combien c'est de CO2 derrière, si on prend l'impact CO2, l'impact climat. Et donc, ça permet d'engager toute une chaîne de valeur et pas uniquement soi. Ce qui est assez intéressant parce que, honnêtement, quand on se lance le premier sur ces sujets-là dans sa chaîne de valeur, ça peut un peu faire peur, on est d'accord. Et donc, l'idée, c'est à chaque fois, et nous, c'est ce qu'on propose toujours, d'intégrer ces parties prenantes.
Est-ce que pour s'engager comme ça, les entreprises, elles ont besoin d'un regard extérieur et d'outils extérieurs comme ceux que vous apportez ? Est-ce qu'elles peuvent le faire toutes seules, les entreprises ?
Elles peuvent le faire toutes seules. Alors, il va y avoir deux choses. Soit, des membres du CODIR, et ça arrive de plus en plus, ou par exemple une fonction comme marketing, RH, produit, qui prennent ce sujet RSE. Donc, le seul désavantage, c'est que c'est un sujet en plus et qu'on voit souvent qu'à un moment donné, ils sont en dissonance parce qu'ils ont envie de faire plein de choses, mais ils n'ont pas le temps de le faire. Ou alors après, quand l'entreprise est un peu plus mature, ils mettent en place des vraiment une personne dédiée à la RSE, à la mission, à l'engagement. Et donc l'idée là de se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, ça va être soit d'accélérer des projets, soit nous d'apporter des méthodes et une envie aussi de travailler en intelligence collective. On essaie beaucoup de rassembler les équipes, les codir. Donc c'est dans ces manières-là de gagner du temps et puis de rassembler et d'avoir une expertise. Parce que sur ces sujets-là, faut bien savoir que c'est hyper dense. Il y a le climat, mais il y a les ressources, il y a un sujet sur la biodiversité et puis il y a bien sûr le sujet social et humain. On peut pas être bon dans tout, donc avoir aussi des expertises métiers qui viennent vous aider, ça peut être intéressant pour l'entreprise.
Vous parlez RSE, on parle souvent dans la RSE de l'aspect environnemental, un peu moins de la question sociétale et sociale. Dans votre démarche, elle y est incluse aussi, cette question ?
Elle y est incluse. En fait, chez Openland, on aime bien travailler avec une boussole qui est notre cap à chaque accompagnement pour pas être uniquement focus, par exemple, climat, ce qui a été le cas pendant de nombreuses années et c'est très, très bien. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a d'autres sujets. Et donc, on a cette boussole qui est le climat, les ressources, la biodiversité et l'humain. Et dans l'humain, ça va être toutes les questions d'inclusion, de bien-être au travail, de diversité, etc., etc. Et on le ressent notamment parce que ces sujets-là, quand on cartographie sa chaîne de valeur, on se rend compte que derrière, c'est des hommes et des femmes qu'on a un peu parfois, soit par, on va dire, déni, ou soit parce qu'on ne veut pas regarder, soit parce qu'on ne sait pas regarder, on ne connaît pas toujours les conditions de travail, etc. Donc on pointe le doigt aussi sur ces sujets-là qu'on n'a pas toujours envie de regarder. Ouais.
Pour que ça marche dans une entreprise, il faut que tout le monde adhère.
Il faut qu'une partie adhère, en tout cas, et c'est aussi du coup notre, ouais, voilà, en tout cas, c'est aussi notre job, du coup, dans le début de la transformation, de la courbe, il faut faire adhérer le plus de monde possible, ouais.
Pour que ça fonctionne aussi, vous dites qu'il faut changer le modèle économique. Mmh. Est-ce que, ça veut dire qu'il faut tout re-questionner? Ça peut aussi faire peur à des entreprises de changer le modèle économique?
Oui, alors le changement de modèle économique arrive pas comme ça dans les premiers accompagnements. Et c'est quelque chose qui va d'abord être long et on va re-questionner la valeur. Donc pour faire ça, on a d'abord, compris les enjeux, engagé une bonne partie de l'entreprise, mesuré ses impacts. Et ensuite, on questionne quel produit-service je dois transformer. Nous, on aime bien dire comment je transforme mes euros bruns en euros verts. C'est-à-dire comment je continue d'avoir de l'activité tout en testant des innovations, des nouveaux produits, des nouveaux services.
Un euro vert, il faut au moins que ça vaille un euro brun, sinon ça vaut pas le coup. Si un euro vert fait la moitié d'un euro brun, l'entreprise, ouais, elle ne fonctionnera plus.
Aujourd'hui, on sait que, par exemple, Shift Project a fait des études pour montrer que la transition écologique va créer énormément d'emplois et plus d'emplois nets en termes de destruction qu'en termes de création de nouveaux emplois. Donc l'idée, c'est de se dire comment on continue une activité économique. Des euros bruns, c'est les euros qui sont liés aux énergies fossiles ou qui détruisent le vivant. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus le faire. Donc nous, notre job, c'est de montrer qu'on peut avoir un modèle économique qui soit plus vertueux. Pour ça, on re-questionne par exemple la valeur et la raison d'être de l'entreprise.
Marion Simon, ça fait 3 ans qu'Openland Anjou existe maintenant. Parmi les acteurs que vous accompagnez sur le terrain, est-ce qu'il y en a qui concrètement se sont engagés jusqu'à bouleverser leur façon, leur modèle économique, leur façon de penser ?
De plus en plus. Alors, c'est ce qu'on disait, c'est pas la première brique qu'elles mettent en place, les entreprises. Mais là, par exemple, ma collègue Élodie, elle travaille sur des modèles économiques de la fonctionnalité, de la coopération. Donc on lance les codir, les dirigeants sur ces questions-là, de se dire comment je crée de la valeur économique, mais aussi de la valeur sociétale et de la valeur environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un bilan comptable, on n'a pas le capital environnemental dans une entreprise. Ça, c'est des questions qui arrivent de plus en plus. On teste, on expérimente et après, voilà.
Mais vous mesurez des changements chez les gens que vous accompagnez aujourd'hui ?
Ouais, parce qu'il y a des boîtes qu'on commence à accompagner depuis un moment. Et en plus, voilà, avec Nantes, on travaille ensemble depuis longtemps. Et oui, il y a des entreprises où on faisait de la sensibilisation il y a 2-3 ans. Et là, maintenant, elles commencent à sortir des nouveaux produits. Je pense à une assurance qu'on a accompagnée. Elle vient de lancer un nouveau produit d'assurance qui est complètement euro vert, quoi, par exemple.
L'un des objectifs d'une entreprise, c'est quand même d'être rentable. Est-ce que il y a des entreprises qui vont avoir du mal à s'engager quand elles ont en face des concurrents qui ne s'engagent pas, qu'ils soient français ou étrangers ?
Alors, il y a deux choses. C'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais aussi autant financé la transition écologique, c'est-à-dire l'ADEME, la BPI, tout le monde. Vraiment, il y a beaucoup d'aide à aller chercher pour s'aider, parce qu'on est d'accord que c'est aussi beaucoup d'investissements à prendre en compte. La deuxième chose, c'est que si on est le seul dans son secteur concurrentiel à le faire, clairement, il faut que le CODIR il soit très embarqué et il ait envie de faire changer les choses parce qu'il va être pionnier. C'est pour ça que, par exemple, là, on accompagne une agence d'architecture. Eux, ils sont tous super engagés. Ils sont pionniers sur leur sujet et parfois, oui, c'est beaucoup d'énergie pour embarquer l'ensemble de sa chaîne de valeur, les promoteurs, les constructeurs, etc., etc. Si là, du coup, ce qu'on fait avec eux, c'est les accompagner sur leur raison d'être et sur un vrai plan d'action avec des indicateurs, qu'on mesure pour voir les progrès. Et on a travaillé sur un club partie prenante où on engage justement l'ensemble de sa chaîne de valeur, parce que sinon, bah oui, on se sent seul et c'est compliqué.
Il y en a qui vous ont dit on veut pas aller plus loin parce qu'on sent qu'on n'est pas, on n'est pas soutenu, que ça suit pas derrière.
Non, franchement, ça n'arrive jamais. Alors après, il y a des choix économiques et de temps. Et donc parfois, c'est pas la bonne année, on fera ça l'année prochaine au final, etc. Mais honnêtement, il y a de plus en plus d'entreprises qu'on suit sur du long terme, ouais.
Est-ce qu'à terme, les entreprises qui ne s'engageront pas sur ces questions-là, elles sont vouées à disparaître selon vous ?
Ah oui, clairement, j'en suis persuadée. Là, nous, aujourd'hui, on travaille sur des plans à chaque fois très court-termistes, moyen terme et long terme. On essaye de dire, c'est quoi votre neige ? C'est-à-dire, demain, une station d'hiver, par exemple, il n'y a plus de neige dans 20 ans, comment on fait ? Eh ben, on pose la même question. Comment, demain, vous êtes résilient par rapport à ces sujets-là ? Au-delà de, oui, on est en train de détruire le vivant et les conditions de vie sur Terre. Demain, comment vous avez un modèle économique toujours en phase avec les crises auxquelles on vit ?
Merci beaucoup Marion Simon. Openland, ça a été créé à Nantes. Aujourd'hui, vous êtes aussi à Biarritz, Angers, Paris, Montpellier, Bretagne. L'objectif, c'est de mailler le territoire comme ça ?
Ouais, exactement. L'idée, c'est d'essaimer avec des entrepreneurs locaux, des problématiques locales, des écosystèmes locaux et d'améliorer les organisations, les collectivités, tous ensemble, aller vers du mieux.
Marion Simon, cofondatrice et dirigeante d'Openland Anjou. Merci à vous. Plus de renseignements sur la plateforme web openland.co. Il y a des animations qui sont organisées d'ailleurs dans les jours à venir et qui sont sur inscription. Vous pouvez aller voir tout ça. On reste dans l'actualité économique de l'Anjou. Quelques informations en bref avec vous, Olivier. On prend des nouvelles de Localis.
Docalis, installé à Beaupront en Mauges avec 28 collaborateurs. C'est une menuiserie qui est désormais labellisée entreprise du patrimoine vivant, tout comme Réry Montrieux, dont vous accueillerez le dirigeant tout à l'heure. Spécialiste de la menuiserie bois, l'entreprise des Mauges a enregistré une croissance de 30% en 2023. Elle travaille principalement sur des chantiers de restauration du patrimoine, comme la boutique Cartier à Paris ou encore l'école militaire, le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Pour exemple, 11 menuiseries monumentales ont ainsi été réalisées en collaboration avec une autre entreprise, Asselin à Thouars, en Deux-Sèvres. Elles seront livrées et installées dans le bâtiment historique de la Monnaie de Paris en avril prochain.
À Saint-Georges-sur-Loire, Steve ouvre son capital aux salariés.
Oui, tout à fait, suite à son introduction en bourse fin décembre, lors de laquelle l'entreprise a levé 10 millions d'euros, un peu plus de 10 millions d'euros. Le groupe industriel Angevin Stif, basé à Saint-Georges-sur-Loire, qui est spécialisé dans la protection contre les explosions, a mis en œuvre un plan d'attribution gratuite d'actions pour ses collaborateurs en France. Le groupe a ainsi décidé de l'attribution de plus de 50 000 actions qui seront distribuées à 124 salariés en CDI, ce qui fait 410 actions par personne et 1% du capital.
Et puis Pierre Le Galoudec, le président de l'IEMM 49, rachète une entreprise à Saint-Malo.
Tout à fait, il a constitué un groupe avec plusieurs entreprises Corémat à Chantossée, SA3 Sponge Jet à Chantossée-sur-Loire et puis SMP qui est une entreprise de mécanique de précision à Segré. Et puis désormais, il a intégré une autre entreprise qui s'appelle UMP35 qui est installée à Saint-Malo. Elle est spécialisée dans le tournage, le fraisage et la découpe fil. Elle viendra compléter le savoir-faire de la société SMP qui travaille aussi dans ce même secteur d'activité.
Merci Olivier. On poursuit ce magazine avec les débats de l'écho.
Les débats de l'écho, RCF Anjou.